BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, willkommen, bonjour et bienvenue à tous dans Vue d'Allemagne, l'Allemagne et sa vie politique mouvementée en ce moment. On revient sur le scénario inédit qui vient de se jouer dans le sud du pays, en Bavière. C'était lors des élections de dimanche dernier, un scrutin régional au résultat jamais vu depuis 70 ans. Scrutin qui pourrait avoir des répercussions jusque sur le gouvernement à Berlin. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, comme chaque semaine, Vue d'Allemagne s'ouvre sur le monde, direction Amman, à 3000 km de Berlin. C'est là-bas, en Jordanie, que l'État vient d'ouvrir un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Elles étaient jusque-là en prison, faute de mieux. Vous écoutez Vue d'Allemagne, le magazine pour mieux comprendre la République fédérale et le monde. Los geht's, c'est parti.
Ein politisches Erdbeben in Bayern.
Natürlich ist es heute kein einfacher Tag für die CSU.
Es hat in Bayern einen Schlag gegeben.
Ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 60 Jahren.
Die CSU stürzt ab.
Das schlechteste Ergebnis für die Christsozialen seit 1950.
Un tremblement de terre politique, des jours difficiles pour la CSU, le plus mauvais résultat depuis 1950 pour le parti. Depuis le week-end dernier, les résultats des élections régionales en Bavière sont donc commentés, analysés, décryptés, réanalysés, redécryptés. Il faut dire que c'est du jamais vu. Alors on votait en fait pour le Parlement régional qui choisit lui ensuite son ministre-président qui forme le gouvernement. Un petit état à l'échelle régionale finalement. Et en Bavière, c'est le parti conservateur régional CSU qui gouverne sans partage depuis la moitié du siècle dernier. Sauf que dimanche dernier, il a connu ses plus bas scores depuis 1950, donc 37,2% des voix. C'est beaucoup, on pourrait dire, mais peu pour un parti habitué à la majorité absolue. Et surtout, ça veut dire que le parti ne pourra plus gouverner seul, il va devoir faire une alliance avec un autre. Alors pourquoi ? D'abord, il y a deux raisons, selon Jérôme Vaillant, il est professeur d'université et directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui.
C'est d'une part la concentration sur un seul thème, à savoir la politique migratoire, alors que les électeurs pensaient à d'autres sujets intéressants comme la politique scolaire, la politique de l'environnement, la politique du logement, etc. Puis le deuxième point qui a été, je crois, beaucoup plus important qu'on a peut-être pu l'imaginer, c'est le fait que le président du parti, en même temps ministre fédéral de l'Intérieur, Horst Seehofer, n'a pas raté une occasion de semer la zizanie dans son parti chrétien-démocrate en privilégiant sa querelle personnelle avec la chancelière à tout simplement l'élaboration d'une politique plus sérieuse et plus sereine.
Angela Merkel a d'ailleurs appelé en début de semaine ses partenaires à plus de travail de concert, plus de travail ensemble. Il faut regagner la confiance des électeurs, dit la chancelière. Mais ça ne sera pas simple car si la CSU, un vieux parti, perd des électeurs, les Verts, parti écologiste, eux en ont gagné. Ils sont à 17,5%, score doublé par rapport à il y a 5 ans. Les Freie Wähler, littéralement des électeurs libres, sont eux à 11,6%. Des élus qui se disent hors parti d'un mouvement qui veut défendre le local en opposition aux considérations régionales ou nationales. Proche de la CSU, parfois sur certaines idées conservatrices, il pourrait donc former un gouvernement de coalition avec la CSU en Bavière dans les semaines à venir. Ce qui fait dire à l'historien contemporainiste allemand à l'Institut franco-allemand de sciences sociales et au Centre Marc Bloch de Berlin, Klaus Petersick, qu'il ne devrait pas y avoir de changement majeur dans la politique bavaroise.
En fait, la politique bavaroise ne va pas changer d'un iota. Sauf que peut-être les Freie Wähler, dans la mesure où ils sont peut-être plus enracinés dans les petites communes, dans les zones rurales de la Bavière, peut-être il y aura une revalorisation de plans structurels, par exemple l'Internet pour les petites communes, qui sont, ou les écoles, ou les hôpitaux, sauver des écoles, sauver des hôpitaux dans le plat pays bavarois. Peut-être les Freie Wähler savent... Oui, mettre leur poids là, dans l'échelle.
À court terme, il n'y aura donc peut-être pas de changement spectaculaire, mais ces élections bousculent les partis traditionnels. Le SPD, le Parti Social-Démocrate, parti historique en Allemagne et en Bavière, est à 9,7% seulement, plus bas que l'AfD, même l'extrême droite à 11,6%, qui fait tout de même moins bien que lors d'autres scrutins, mais prouve son ancrage au fil des ans. C'est une crise des partis traditionnels que vit la Bavière et l'Allemagne, dit Klaus Petersick.
C'est tout à fait cela. Hein, les chutes de 10% du côté de la gauche traditionnelle et de la droite traditionnelle, qui sont allés vers les Verts, un petit peu bon, vers les libéraux, un petit peu aussi vers Die Linke, ça traduit une crise structurelle. C'est pas conjoncturel. On peut dire, bien sûr, c'est Angela Merkel à Berlin, c'est les querelles autour de Maaßen, c'est les querelles autour de la politique de l'asile. Tout cela, c'est vrai, hein, en partie. Mais quand on regarde les résultats obtenus par le CSU depuis le all-time high en 1974 jusqu'à aujourd'hui, c'est un lent, mais très perceptible quand même, déclin du CSU qui perd 15% et du SPD qui perd, alors là, un tiers, n'est-ce pas, entre 35% qu'il a eu dans les années 50, 60 et les 10% d'aujourd'hui, c'est quand même un déclin très, 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 très net.
Un déclin net, et c'est pourquoi le sujet est si important en Allemagne, déclin qui pourrait avoir des conséquences jusqu'au niveau national, car le SPD et la CSU, en perte de vitesse, sont au gouvernement fédéral, aux côtés de la chancelière Angela Merkel. Et depuis plusieurs mois, des ministres comme Horst Seehofer sont aussi souvent en désaccord avec la chancelière, et ils le disent publiquement. Ces résultats pourraient donc pousser les dirigeants de ces partis à vouloir des changements de politique fédérale ou même à dire « stop, on ne gagne rien à gouverner et on s'en va ». Le gouvernement tomberait alors, et Angela Merkel avec. Ces élections sont donc un avertissement pour la stabilité gouvernementale, estime beaucoup comme Klaus Petersic.
Bien sûr, d'abord parce que les sociodémocrates sont à nouveau extrêmement affaiblis et parce qu'il y a pas mal de gens au sein de ce partenaire de coalition au niveau fédéral qui vont se dire « mais nous sommes laminés au sein de cette coalition au centre ». Donc il y a des forces centrifuges à cause de ce résultat des élections au niveau bavarois pour le SPD, mais il y a aussi des forces centrifuges du CSU qui souhaitent peut-être aussi localiser d'abord ce mauvais résultat chez Angela Merkel. Et il y a aussi, et maintenant c'est le plus important, les élections dans un autre land, du Land de Hessen. Et si là, le CDU cette fois-ci a un mauvais score, je pense que vraiment la stabilité de la coalition gouvernementale est très très sérieusement mise en question.
Élections prévues à la fin du mois d'octobre cette fois. Ouais, parce que là, c'est aussi des proches des gens du parti de la chancelière qui remettent leur...
Exactement. C'est à nouveau une élection où un proche de la chancelière est le candidat, le Spitzenkandidat, le candidat en lice, le challenger principal. Et si lui a un mauvais score, c'est vrai que je pense que les forces centrifuges ou critiques à l'égard de la chancelière au sein de son propre parti vont gagner encore plus en force qu'ils ne l'ont pas déjà.
Et ainsi, le gouvernement pourrait carrément éclater. Le Parti social-démocrate avait d'ailleurs dit dès la formation du gouvernement fédéral, il y a 7 mois maintenant, qu'il ferait le point, un point sur l'action gouvernementale 2 ans après le début de sa participation. Sous-entendu, on se retirera peut-être après 2 ans. Pas de quoi donc apaiser la vie politique allemande dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et ce, alors que l'Allemagne vit déjà au rythme de débats enflammés sur sa politique migratoire, celle de l'environnement, de son industrie automobile ou de son système de santé.
Ich war mein Leben lang im schönen Bayernland, im Tal und auf den Bergen und auch noch bei den Herden. Ich habe es mir gedacht, bald jeden Tag und Nacht, das Bayernland gefällt mir, drum bleib ich immer hier.
Im schönen Bayernland, dans la belle région de Bavière, pour conclure ce sujet suite aux élections dans cette région de 12 millions d'habitants dans le sud de l'Allemagne. On en reparlera évidemment sur la DW, notamment quand les Sondierung, Gespräche, les discussions de formation d'un gouvernement régional arriveront à leur fin. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et on revient aujourd'hui sur une terrible injustice. Des femmes menacées de mort par un homme de leur entourage et incarcérées dans des prisons pour assurer leur protection. Cela se passait automatiquement comme ça en Jordanie jusqu'à il y a peu de temps. Heureusement, cette situation est en passe de disparaître, car l'État a ouvert fin août un centre d'accueil et de réhabilitation pour aider ces femmes en danger. Femmes menacées de crimes d'honneur, comme on dit assez maladroitement sur place. Jérôme Borutsevski nous emmène à leur rencontre dans un centre en périphérie d'Amman, la capitale jordanienne. Un lieu dont on ne vous dira rien de plus sur sa localisation précise sur cette antenne. Car signe que tout n'est pas gagné, le centre d'accueil reste secret pour garantir la sécurité de ces femmes. Visite donc avec Jérôme Borutsevski.
Ce n'est pas une prison, mais ce n'est pas non plus une résidence habituelle. La grille d'entrée est solide, gardée par deux policiers. Les murs d'enceinte ont été rehaussés. Malgré tout, il faut que les nouvelles pensionnaires se sentent bien. Alors l'accent a été mis sur le confort. Rahda Alazé, la directrice du centre.
Il y a un tapis de course, le salon, la salle à manger, la cuisine. Elles ont le choix. Elles peuvent cuisiner ou bien il y a ici aussi un cuisinier.
Et elle partage cet espace ici?
Oui, il y aura 5 à 7 femmes. Elles ont leur propre chambre. Et comme vous le voyez, les couleurs sont très gaies.
C'est une chambre double.
Oui, si nous avons besoin de plus de lits, nous pouvons réaménager les chambres dans le centre. Aucune femme ne va dormir dehors.
Et là, il y a un petit lit pour un bébé?
Oui.
Les 20 femmes qui résident maintenant dans ce centre de réhabilitation sont menacées de mort par des hommes de leur famille. Des hommes qui veulent les éliminer, souvent après des événements qui ont déchiré les familles. Prostitution, adultère, divorce. Ces femmes auparavant étaient en prison, seule manière imaginée par l'État jordanien pour les séparer de leurs agresseurs. C'est ainsi qu'Amira, ce n'est pas son vrai nom, a passé 15 ans derrière les barreaux uniquement parce qu'on lui voulait du mal.
Ma vie est fichue. N'allez pas penser que je suis heureuse. Regardez ce à quoi je ressemble. Je suis entrée en prison, je ressemblais à une poupée. J'en suis sortie, je ressemblais à une centenaire. C'est un sentiment formidable de se dire que ces femmes ne seront plus en prison maintenant. En prison, tout le monde se mêlait des affaires des autres. Pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Au centre, au moins ces femmes y vont de leur propre volonté, pas forcées. C'est la grande différence.
La différence également, c'est que des psychologues, des psychiatres, des avocats et des formateurs vont épauler ces 20 femmes au centre pour les aider à en sortir et mener une vie normale. Rahda Alazé, la directrice du centre, nous emmène maintenant au deuxième étage.
C'est notre salon de beauté. Et nous avons ici tout ce dont les femmes ont besoin pour se faire belles. Du maquillage, de quoi couper les cheveux. Et ici, il y aura un formateur qui pourra donner aux femmes qui en ont besoin une formation.
Une formation en coiffure.
Oui, et nous avons passé un accord avec une organisation non gouvernementale pour qu'elles reçoivent un diplôme pour faciliter leur insertion professionnelle en dehors du centre.
L'ouverture de ce centre d'accueil témoigne d'un changement profond au sein de la société jordanienne. Ces femmes en danger ne sont plus considérées comme des fauteuses, mais comme des victimes dont il faut prendre soin. Et le comportement des hommes change également. Asma Khader est une avocate féministe.
L'an dernier, il y a eu une baisse de 60% du nombre de crimes perpétrés contre des femmes sous le prétexte de restaurer l'honneur de la famille. Il y a eu 6 meurtres. Donc oui, il est possible de mettre fin au phénomène. Parce qu'il y a plusieurs années, ces crimes étaient nombreux. 17, 20, 22, 29, 40. Chaque année, la tendance va dans le bon sens.
Les lourdes peines de prison, désormais infligées aux auteurs de crimes d'honneur, expliquent également cette tendance. Auparavant, les crimes passionnels étaient punis de sentences légères, 1 ou 2 ans de prison. L'accusé sortait même parfois libre de son procès. Le code pénal a été amendé en novembre dernier. Désormais, les hommes qui tuent pour soi-disant restaurer l'honneur de leur tribu encourent en Jordanie la peine de mort.
Jérôme Borutsevski en périphérie d'Amman en Jordanie pour la Deutsche Welle. Ce reportage et tous les autres de nos correspondants en Allemagne et à travers le monde sont à retrouver dans la médiathèque de la DW sur Internet. Une médiathèque où vous pouvez écouter Vue d'Allemagne en continu si vous le souhaitez, 24 heures sur 24 en podcast. Mais la radio, la vieille, traditionnelle en FM et en continu, notre émission s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, alles Gute, comme on dit ici, portez-vous bien, à très bientôt, tschüss.
Ich war mein Leben lang im schönen Bayernland, im Tal und auf den Bergen und auch noch bei den Herden. Ich habe es mir gedacht, bald jeden Tag und Nacht, das Bayernland gefällt mir, drum bleib ich immer hier. Doch was wäre dieses Land, das jedem gut bekannt, ohne an fischen Jodler? Ich brauch halt an Jodler, ich brauch halt an Jodler. Ich brauch halt an Jodler, ich brauch halt an Jodler. Am Tag zur Arbeit und laufe hin und her und glaub's mir, es fällt mir schwer, so ständig im Verkehr. Das Einzige, was mich rettet, das ist die Joderei und dieses kleine Hobby, das ist meine größte Freude. Ich brauch halt an Jodler, ich brauch halt an Jodler. Ich brauch halt an Jodler, ich brauch halt an Jodler. Noch 100 Schichten erzählen, noch blöder als bisher. Das fällt mir gar nicht schwer, das fällt mir gar nicht schwer. Ich glaub, das Beste wär's, ich sing noch mal den Schluss und hoff, dass es für euch ist ein kleiner Hochgenuss. Sie kennen den Refrain mit dem Jodel-Hodel-Regen und wir singen jetzt alle. Ich brauch halt einen Jodler, ich brauch halt einen Jodler. Oh, hey, oh, hey, oh. Ich brauch halt an Jodler, ich brauch halt an Jodler.
DW.